Le Monde aujourd'hui, Jean-Roger Billon à ce micro, au sommaire de cette édition du mercredi 10 juillet 2024. En Guinée, arrestation de deux responsables du Front National pour la défense de la Constitution, un mouvement critique de la junte.
Nous utilisons le mot kidnapping d'autant plus qu'ils n'ont reçu aucune convocation et leurs avocats n'ont pas été informés.
Abdoulaye Oumousso, porte-parole du FNDC, nous en dira plus dans la partie magazine. L'Ouganda dénonce des accusations de l'ONU risibles et sans fondement sur le soutien présumé de Kampala au M23 en RDC. Israël affirme avoir tué ou blessé 60% des combattants du Hamas à Gaza. L'OTAN, réunie en sommet ici à Washington, commence à envoyer des avions F-16 en Ukraine. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la minute éco pour l'instant le journal. En Guinée, deux leaders du Front National pour la défense de la Constitution, mouvement citoyen pro-démocratie, ont été arrêtés hier soir, a annoncé le FNDC sur les réseaux sociaux. Nathalie Barge.
Fony Kemenge et Mamadou Biyoba ont été arrêtés par un groupe de militaires en cagoulé et certains en tenue civile lourdement armée, a indiqué le FNDC qui parle de kidnapping. Ils sont détenus à la direction des investigations judiciaires de la gendarmerie, précise le mouvement citoyen. Le FNDC a été créé en 2019 pour s'opposer au troisième mandat de l'ancien président Alpha Condé. Les autorités militaires l'ont dissous en 2022 après avoir interdit toute manifestation. Depuis lors, plusieurs opposants ont été arrêtés, poursuivis par la justice ou poussés à l'exil. Fony Kemenge, coordinateur du FNDC, a été arrêté plusieurs fois sous Alpha Condé et Mamadi Doumbouya. Mamadou Biyoba, responsable de la mobilisation du mouvement, a aussi été arrêté l'an dernier. Ils avaient passé plusieurs mois en prison. Leur arrestation intervient quelques jours après l'annonce de la mobilisation pour le rétablissement des fréquences des médias retirés et contre la détérioration des conditions de vie, a déclaré le FNDC. Le 22 mai, les autorités ont retiré leur agrément à 4 radios et 2 télévisions privées.
Au Niger, la justice a accordé la liberté provisoire au directeur du quotidien, l'enquêteur Idrissa Soumana Maïga, emprisonné depuis fin avril pour atteinte à la défense nationale. Idrissa Soumana Maïga avait été interpellé par la police le 25 avril et placé sous mandat de dépôt 4 jours plus tard à la prison de Niamey par un juge d'instruction pour atteinte à la défense nationale. D'après son avocat, Maître Ousmane Ben, l'inculpation de son client était liée à un article paru le 25 avril dans l'enquêteur critiquant les installations des Russes au Niger. L'Ouganda rejette le rapport des experts de l'ONU qui affirme que des membres de son service de renseignement ont apporté un soutien actif au M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. Les détails avec Yakuba Oudraou.
Le porte-parole adjoint de l'armée ougandaise, le colonel Deo Akiiki, qualifie ce rapport de risible et sans fondement, ajoutant que les forces armées ougandaises ont travaillé avec les forces de la RDC pour assurer le retour de la paix dans l'est de la RDC. Le colonel Akiiki soutient que l'Ouganda et la RDC se sont engagés dans des instruments de consolidation de la paix. Dans un nouveau rapport semestriel, des experts de l'ONU mandatés par le Conseil de sécurité disent avoir eu confirmation d'un soutien actif au M23 de membres des services de renseignement d'Ouganda. Depuis la résurgence de la crise du M23, l'Ouganda n'a pas interdit les troupes du M23 et les forces armées rwandaises, ni leur passage sur son territoire, selon le rapport, qui souligne un passage régulier de troupes dont l'ampleur et la fréquence des mouvements font qu'il y a peu de chances qu'une telle présence passe inaperçue. La porte-parole du gouvernement rwandais Yolande Makolo a accusé la RDC d'avoir constamment menacé de déclarer la guerre au Rwanda, qui continuera à se défendre, selon elle.
En Angola, la condamnation à 5 ans de prison pour détournement de fonds du fils de l'ancien président José Eduardo Santos a été confirmée mardi par une décision surprise de la Cour suprême à Luanda, quelques mois après son annulation par la Cour constitutionnelle. Surnommé Zenou, le fils de l'ancien président José Filomeno dos Santos, 46 ans, était l'un des premiers membres de la famille dos Santos à être poursuivi dans le cadre de la campagne anticorruption lancée par le président João Lourenço à son arrivée au pouvoir en 2017. En Afrique du Sud, 13 personnes, dont 12 enfants et le conducteur, ont été tuées dans la collision d'un minibus en route vers l'école et un autre véhicule tôt ce mercredi, a annoncé le gouvernement de la province du Gauteng. 7 autres enfants ont été blessés et transportés d'urgence à l'hôpital après cet accident survenu lorsque le minibus s'est renversé et a pris feu après avoir été heurté par un autre véhicule, selon un communiqué du gouvernement de la province du Gauteng, la plus peuplée du pays et qui comprend Johannesburg et Pretoria. La France annonce l'expulsion d'un imam sénégalais radicalisé. Le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui donnait la nouvelle, n'a pas détaillé davantage le profil de cet homme. Cependant, ce religieux a déjà évoqué dans ses prêches que les femmes doivent rester chez elles, que les musulmans ne doivent pas se mélanger aux non-musulmans. Fin de citation.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a affirmé ce mercredi que l'armée israélienne a éliminé ou blessé 60% des combattants du Hamas durant la guerre dans la bande de Gaza. Il a appelé tous les habitants à évacuer la ville de Gaza où ses soldats sont engagés dans une opération majeure. Nous y reviendrons. 3 jours après les élections législatives anticipées qui ont plongé la France dans l'inconnu, le président Emmanuel Macron a appelé ce mercredi les forces politiques républicaines à bâtir une majorité solide et plurielle pour le pays, estimant que personne n'était sorti vainqueur du scrutin. Depuis dimanche, les formations politiques ont lancé de grandes manœuvres pour déterminer comment gouverner et avec qui dans cette configuration politique de bloc sans majorité absolue, inédite pour la France. Réunis en sommet ici à Washington, les dirigeants de l'OTAN sont d'accord pour dire que l'Ukraine est sur une voie irréversible vers son adhésion à l'Alliance Atlantique, selon les diplomates. Les pays membres annoncent aussi avoir commencé à transférer des avions de combat F-16 à Kiev. Le point avec Jacques Aristide.
Ces avions en provenance du Danemark et des Pays-Bas voleront dans le ciel ukrainien cet été pour s'assurer que l'Ukraine puisse continuer à se défendre efficacement contre l'agression russe, a déclaré aujourd'hui le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. La Maison-Blanche indique que la Belgique et la Norvège se sont engagées à fournir d'autres appareils. Nous continuerons à soutenir l'Ukraine dans son chemin irréversible vers une intégration euro-atlantique totale, y compris une adhésion à l'OTAN, indiquent les 32 pays membres de l'Alliance dans une déclaration commune finalisée, mais qui doit encore être formellement adoptée par les dirigeants de l'OTAN, ont affirmé des diplomates ce mercredi. Après la fête du 75e anniversaire de l'Alliance hier soir, le Conseil de l'Atlantique Nord, l'organe politique suprême de l'OTAN, se réunit aujourd'hui. La Russie ne gagnera pas, a promis le président américain Joe Biden, hôte de ce sommet, au moment où il est confronté à des appels, y compris au sein de son camp démocrate, pour qu'il renonce à se représenter après son récent débat jugé calamiteux face à son rival républicain Donald Trump.
Le président élu iranien Massoud Pezeshkian prêtera serment devant le Parlement le 30 juillet, non début août, comme annoncé initialement. On rapporte aujourd'hui les médias d'État. M. Pezeshkian, un réformateur de 69 ans, a remporté vendredi le second tour de l'élection présidentielle contre l'ultra-conservateur Saïd Jalili, un scrutin organisé après le décès en mai du président ultra-conservateur Ibrahim Raisi dans un accident d'hélicoptère. Il a obtenu environ 53,6% des voix contre 44,3% pour M. Jalili. Sur environ 30 millions de suffrages exprimés, le taux de participation a été de 49,8%. Et je le disais, le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a affirmé ce mercredi que l'armée israélienne a éliminé ou blessé 60% des combattants du Hamas durant la guerre dans la bande de Gaza. Il a appelé tous les habitants à évacuer la ville où ses soldats sont engagés dans une opération majeure. Mouamadou Mfa.
Nous avons éliminé ou blessé 60% des terroristes du Hamas, a déclaré Yoav Gallant, assurant que les forces israéliennes ont démantelé une grande majorité des bataillons du Hamas et que les soldats se battent depuis 9 mois avec dévouement, sacrifice et succès. D'après le bureau du premier ministre israélien, 14 000 terroristes ont été éliminés. Nous avons ramené la moitié des otages et nous sommes déterminés à ramener le reste, a assuré M. Gallant. Selon l'armée israélienne, 116 des 251 personnes enlevées le 7 octobre sont toujours retenues à Gaza. L'armée israélienne opère actuellement dans plusieurs secteurs de la bande de Gaza et a renforcé ces derniers jours une offensive dans la ville de Gaza. Elle a confirmé avoir largué des tracts à Gazaville appelant toutes les personnes à partir.
L'armée chinoise procède cette semaine à des exercices militaires avec une force biélorusse à la frontière de la Pologne et donc de l'OTAN, un signal adressé à cette organisation en plein sommet à Washington et dans un contexte de tensions sino-américaines. Ces manœuvres présentées comme antiterroristes sont surveillées de près par les militaires polonais, car le Bélarus est un très proche allié de la Russie qui a envahi l'Ukraine, soutenue militairement par l'Alliance Atlantique. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute éco avec Nathalie Barge.
En Côte d'Ivoire, 1,3 milliard de dollars sont nécessaires pour financer la stratégie de développement de la filière riz, a annoncé le ministre de l'Agriculture, Kobenan Kouassi Adjoumani. L'objectif est d'augmenter la production de riz padi à 4,16 millions de tonnes d'ici 2027 et de riz blanchi à 3,2 millions de tonnes d'ici 2030. Plus de la moitié du financement total sera consacré à l'augmentation des superficies rizicoles et à la gestion de l'eau. Au Nigeria, le ministre de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire, Aboubakar Kyari, a annoncé que les importations de maïs, de riz et de blé vont bénéficier d'une suspension des droits de douane pendant 5 mois. Le gouvernement va importer 250 000 tonnes de blé et le même poids de maïs pour approvisionner les transformateurs. Selon le Bureau national des statistiques, l'inflation alimentaire en hausse depuis un an et demi a atteint plus de 40% en mai. Au Burkina Faso, les députés ont adopté hier une loi sur la sécurité des systèmes d'information, indique le ministère de la Transition digitale, des postes et communications électroniques sur Facebook. Lors de la séance plénière, la ministre de la Transition digitale, Aminata Zerbo Sabané, a dit que des initiatives sont en vue pour faire du numérique un levier du développement socio-économique.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
L'Espagne est la première qualifiée pour la finale de l'Euro 2024.
Oui, grâce à sa vista, la Roura a renversé la France 2-1. L'équipe de Didier Deschamps ne disputera pas une quatrième finale en 5 tournois consécutifs. La faute à une Espagne au jeu brillant et au nez solide. Tout a pourtant bien commencé à Munich pour les Bleus, lancés sur une tête de Randal Kolo Muani à la 12e minute. Mais leur adversaire a repris les commandes sur une merveille de Lamine Yamal à la 21e minute, puis une frappe de Dani Olmo à la 25e, contrée par Jules Koundé. L'Espagne fait ainsi chuter les vice-champions du monde français après avoir décroché le scalp de l'Allemagne, le pays hôte, en quart de finale. « Je vais gagner, c'est un bonheur de fêter mon anniversaire ici en Allemagne et d'être avec l'équipe à savourer Lamine Yamal qui aura 17 ans le 13 juillet. » L'armada guidée par Luis de la Fuente connaîtra l'identité de son adversaire en finale dimanche à Berlin à l'issue de l'autre demi ce soir à Dortmund.
Ça se joue entre l'Angleterre et les Pays-Bas.
La sélection des Three Lions s'est tenue bien éloignée pour l'heure des immenses attentes placées en elle au royaume du football. C'est vrai, de titres depuis la Coupe du Monde remportée en 1966 à domicile, l'équipe de Gareth Southgate a réalisé un premier tour sans éclat avant de connaître les frissons de l'élimination contre la Slovaquie et la Suisse. Même sans bien jouer ni se créer beaucoup d'occasions, elle se retrouve dans le dernier carré d'une grande compétition. Pour la 3e fois en 4 tournois après le Mondial 2018 et l'Euro 2021, pour y jouer une finale 3 ans après celle perdue contre l'Italie au tir au but à Wembley, il faudra se débarrasser de Néerlandais en confiance portés par la vague orange de leurs supporters très nombreux en Allemagne.
En Copa América, c'est l'Argentine qui est la première qualifiée pour la finale.
L'Argentine s'est qualifiée pour sa 2e finale consécutive de Copa América en battant en demi-finale le Canada 2-0 grâce à un but de son capitaine emblématique Lionel Messi, déjà victorieuse de la Copa América en 2021 puis de la Coupe du Monde en 2022. L'Albicéleste défendra son titre dimanche à Miami contre le vainqueur de l'autre demi-finale, opposant ce soir la Colombie à l'Uruguay. Je le vis comme si j'étais en train de vivre ma dernière Copa América. Ce sont mes dernières batailles et j'en profite au maximum à savourer après la victoire le numéro 10 argentin de 37 ans. Avec cette victoire, l'Argentine n'est plus qu'à un match d'un triplé historique qui la verrait remporter 2 Copa América avec une Coupe du Monde au milieu. Et pour cela, elle devra se défaire de la flamboyante Colombie, impitoyable en cas contre le Paraguay 5-0, ou de l'Uruguay qui a éliminé le Brésil au tir au but. Le Canada jouera de son côté contre le perdant de cette demi-finale pour la 3e place samedi.
Page d'espoir VOA Afrique, signé Yacouba Ouédraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Le président des États-Unis a accueilli hier mardi les dirigeants des pays membres de l'OTAN à Washington. Joe Biden a plaidé en faveur de la paix par la force, tout en mettant en exergue les 75 ans d'existence de l'Alliance Atlantique sur fond du plus important défi sécuritaire auquel fait face l'Europe depuis des décennies. D'autres responsables de l'administration américaine ont avancé des arguments similaires en faveur du renforcement de la défense pour lutter contre les menaces mondiales. Compte rendu d'Anita Powell, la correspondante de la VO à la Maison-Blanche, le récit est de Jacques Aristide.
Mardi soir, dans la capitale américaine, le président Joe Biden a pris part avec les dirigeants ou leurs représentants des 32 pays de l'OTAN à une cérémonie marquant le 75e anniversaire de l'Alliance militaire occidentale. Dans une déclaration commune, plusieurs alliés ont confirmé l'envoi de systèmes de défense anti-aérienne à l'Ukraine.
It's good that we're stronger than ever.
C'est bien que nous soyons plus forts que jamais, parce que ce moment de l'histoire fait appel à notre force collective. Les groupes terroristes continuent de préparer des plans diaboliques pour semer le chaos et la souffrance. En Europe, la guerre d'agression de Poutine contre l'Ukraine se poursuit et Poutine ne veut rien de moins que l'assujettissement total de l'Ukraine afin de mettre fin à la démocratie ukrainienne, détruire la culture ukrainienne et rayer l'Ukraine de la carte. Nous savons que Poutine ne s'arrêtera pas à l'Ukraine. Mais ne vous y trompez pas. L'Ukraine peut arrêter Poutine et elle le fera.
Son argument a été soutenu par des membres de son administration, dont son conseiller à la sécurité nationale, qui s'est adressé à des dirigeants de l'industrie de défense et a invoqué un adage romain « Si vous voulez la paix, préparez-vous à la guerre ». Pour Jens Stoltenberg, le secrétaire général sortant de l'organisation, l'OTAN est non seulement l'alliance la plus réussie et la plus solide de l'histoire, mais aussi la plus pérenne.
Signer un nouvel engagement industriel de défense, et ce sera un engagement qui contribuera à rendre notre industrie en Europe et en Amérique du Nord plus forte, plus innovante et capable de produire à grande échelle.
Dans son discours, le président Biden a reconnu le rôle joué par Stoltenberg. Il a agréablement surpris l'ancien premier ministre norvégien en lui remettant la plus haute distinction civile des États-Unis, la médaille présidentielle de la liberté. Le sommet de l'OTAN intervient dans un climat d'incertitude politique aux États-Unis où des élus démocrates appellent le président Biden à abandonner la course à un second mandat en novembre face au républicain Donald Trump. Via Zoom, Gisèle Donnelly, chercheuse à l'American Enterprise Institute for Public Policy Research.
Cela devrait nous rappeler le rôle extrêmement important qu'incarne le leadership américain dans cette alliance. C'est une création américaine. Elle vit, survit, prospère et repose sur le leadership américain. Et lorsque des doutes surgissent quant au leadership américain et autour des dirigeants américains, je veux dire, lorsque le président américain attrape un rhume, l'OTAN contracte une pneumonie.
Les pays membres de l'OTAN sont entrés dans le vif du sujet ce mercredi, décidés à renforcer leur soutien à l'Ukraine et à surmonter les doutes et incertitudes politiques qui entourent ce sommet des 75 ans de l'Alliance Atlantique.
En Guinée, Oumar Sylla, plus connu sous le nom de Fonny Kemenge, coordinateur national du FNDC et Mamadou Bilo Ban, membre de cette organisation, a été arrêté par un groupe de militaires encagoulés et certains en tenue civile lourdement armée, selon le Front national pour la défense de la Constitution. Le FNDC parle de kidnapping en contradiction avec toutes les procédures d'interpellation. Yacouba Ouédraogo a joué en France. Abdoulaye Oumousso, le porte-parole du FNDC.
Nous utilisons le mot kidnapping d'autant plus qu'ils n'ont reçu aucune convocation et leurs avocats n'ont pas été informés de cette possible arrestation hier. Et malheureusement, c'est à une heure indue qu'ils ont été arrêtés, parce qu'ils ont été arrêtés dans les bancs de 22 heures, c'est-à-dire tard dans la nuit, sans convocation, et manu militari par des personnes qui sont cagoulées, certains en tenue militaire, certains en tenue de la gendarmerie et d'autres en tenue civile, mais tous cagoulés. Ils ont été traînés par terre et emportés avec eux.
Est-ce que vous savez où est-ce qu'ils ont été amenés et pourquoi ils ont été arrêtés ou enlevés selon vous?
Dans un premier temps, quand ils ont été enlevés, ils ont été envoyés à l'escadron numéro 2 de Hamdallah avant d'être transférés aux encarbures de la présidence, avant d'être retenus quelque temps au niveau du haut commandement de la gendarmerie. Quelque temps après, ils ont été envoyés dans l'île de Kassa. Ils ont fait la traversée avec des chiens dans le même bâton qu'eux et des gendarmes cagoulés du groupement d'intervention rapide de la gendarmerie nationale. C'est une nouvelle unité créée par le commandement de la gendarmerie qui était censée lutter contre le terrorisme, qui aujourd'hui kidnappe les citoyens paisibles sans convocation et les amène dans un lieu de détention qui n'est pas conventionnel. Et ce que nous apprenons est extrêmement grave parce que nous apprenons qu'ils sont sous torture et nous apprenons que l'un d'entre eux est dans un état très critique.
Est-ce que vous savez pourquoi ces deux leaders du FNDC, le Front National de la Défense, la Constitution, ont été arrêtés?
Nous soupçonnons la junte dans sa même logique de vouloir museler toutes les voix dissonantes. Vous savez que les médias ont été fermés ces derniers temps, les manifestations sont interdites depuis 2 ans et en plus, beaucoup d'acteurs sociopolitiques sont aujourd'hui en exil. Au-delà de cela, la cherté de la vie gangrène le pays. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien. Et ces derniers temps, les populations ne cessent d'interpeller le FNDC sur la situation que vit le pays. Et ils savent que c'est le FNDC qui est le rempart aujourd'hui pour la population guinéenne. Donc pour eux, il faut déjà tuer cela la l'œuf. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Sinon, je ne vois pas ce qui les amène à venir kidnapper nos camarades alors qu'il y a la possibilité de déposer une convocation qui se présente devant un juge, d'autant plus que leurs domiciles sont connus. Et d'ailleurs, c'est au domicile de l'un d'entre eux qu'ils ont été kidnappés. Donc, ça veut dire aujourd'hui que la gente est déboussolée. Elle montre qu'elle est paniquée. Et malheureusement, elle n'a plus de limites. Nous devons faire des démarches au niveau des leaders et du jeu, au niveau des coordinations régionales et autres, d'aller voir les détenteurs des pouvoirs publics aujourd'hui, notamment la junte, pour leur dire la situation de précarité dans laquelle les populations sont en train de vivre.
Abdoulaye Oumousso, porte-parole du FNDC.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Cameroun, la classe politique est divisée après la prorogation pour 1 an du mandat des députés. L'Assemblée nationale majoritairement acquise au parti au pouvoir, le RDPC a renvoyé les élections législatives en mars 2026. Une situation qui pourrait porter préjudice à certains candidats de l'opposition. De Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Jelentap.
Les acteurs de la société civile n'approuvent pas la prorogation du mandat des députés. Iler Kamga, mandataire de l'Offre Orange, un mouvement de la société civile qui prône une transition politique au Cameroun.
Cela oblardise l'électorat permanente, puisqu'il s'agit de distribuer les cartes dans le sens de pouvoir fausser le jeu, hein, parce que les raisons invoquées pour pouvoir reporter n'ont aucune, ne sont pas défendables au moment où le Cameroun peut prétendre avoir assez d'argent au regard d'un certain nombre.
Les élections législatives, municipales, régionales et la présidentielle étaient prévues en 2025. Le président de l'Assemblée nationale a été favorable à la prorogation du mandat des députés et soutient, je cite, « ces 4 consultations majeures auraient installé le Cameroun dans un cycle électoral permanent tout au long de la même année avec des implications sur le fonctionnement habituel du pays sans compter le poids des charges financières ». Fin de citation. Un point de vue que ne partage pas le député Joshua Yossi, président du Social Democratic Front, un parti de l'opposition.
Quand nous avons reçu de la consultation du bureau de l'Assemblée nationale où je suis présent, je me suis abstenu de donner un avis favorable à cette prorogation-là. Nous sommes contre cette prorogation parce que c'est complètement contraire aux bonnes pratiques démocratiques.
Le SDF appelle à un jeu politique équitable et demande à cet effet le report des élections régionales. Joshua aussi, président du SDF.
Les mêmes raisons que le président de la République a données pour les municipales et pour les législatives sont valables pour les régionales. Donc il ne peut pas se dérober de ce devoir de signal de craie pour repousser ces élections-là.
Au sein du RDPC, le parti au pouvoir, le report des législatives en mars 2026 a été acté de tous. David Manfo, député RDPC.
Ça peut faire un peu plus du bien ou plus de mal à certains. Ça permet simplement de réajuster les stratégies pour chaque parti politique ou pour tous les acteurs de la chaîne. Et je suis habitué à ces prorogations-là.
La prorogation d'un an du mandat des députés sera préjudiciable au MRC, le parti de l'opposant Maurice Kamto, qui n'a pas d'élus locaux, puisque la loi électorale prévoit que seules les formations politiques qui ont des élus locaux peuvent avoir un candidat à l'élection présidentielle. Pour le ministre chargé des relations avec les assemblées, le MRC s'est auto-exclu du jeu électoral en boycottant les élections locales de 2020. Emmanuel Junta pour VOA Afrique, Yaoundé.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Un nouveau directeur régional de l'OMS pour l'Afrique sera désigné lors de la 74e session du Comité Afrique de l'Agence onusienne qui se tiendra du 26 au 30 août 2024 à Brazzaville au Congo. Plusieurs candidats briguent le poste, parmi lesquels le Sénégalais Ibrahima Sossé Fall. Mouamadou Mfa lui a demandé quelles seront ses priorités pendant les 5 ans de son mandat s'il devient le nouveau patron de l'OMS pour l'Afrique.
La première priorité pour moi, c'est d'intégrer la santé dans toutes les politiques sectorielles et renforcer le système de santé afin que toutes les personnes puissent avoir accès à des soins de qualité. La deuxième priorité, c'est tout ce qui concerne la préparation et la réponse aux situations d'urgence, le nombre de personnes qui ont besoin d'intervention humanitaire, mais aussi les risques d'épidémie et de pandémie toujours là. Et les pays doivent se préparer dans le cadre de la prévention et la réponse à ces épidémies. Et mon parcours me permet donc de pouvoir aider les pays à le faire. La troisième priorité, c'est d'accélérer donc la réduction des disparités en matière de santé et de réduire la mortalité maternelle, néonatale et infantile. Aujourd'hui encore, 72% des décès de femmes qui accouchent, ça se passe en Afrique. Nous devons travailler à éliminer des maladies qui peuvent être éliminées dans certaines zones. Le paludisme peut être éliminé dans certaines zones. Beaucoup de maladies tropicales négligées peuvent être éliminées. Et nous devons investir plus pour le faire.
Il s'agit là d'un vaste programme qui nécessitera forcément beaucoup de moyens techniques et financiers, surtout financiers. Où trouverez-vous les moyens?
Il est extrêmement important de maximiser déjà les financements domestiques, les financements endogènes des pays et assurer une meilleure gouvernance, une meilleure transparence dans l'utilisation des ressources. Parce que si on augmente les ressources sans une gouvernance améliorée, les problèmes vont demeurer. Nous avons besoin aussi d'une meilleure coordination et d'un meilleur alignement des financements internationaux. Nous avons beaucoup d'initiatives aujourd'hui. Le Fonds mondial pour la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Nous avons Gavi, nous avons les fonds pandémiques. Nous devons nous assurer que ces fonds sont bien coordonnés et de façon alignée aux priorités des pays, de telle sorte qu'on peut maximiser l'efficience.
L'OMS est parfois considérée comme une institution occidentale qui ne tient pas compte des réalités africaines, notamment de la médecine traditionnelle africaine qui reste très populaire et très intégrée, notamment dans les zones rurales. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ceux qui ont cette vision des choses?
C'était une réalité dans le passé, parce qu'il faut le rappeler, l'OMS a été créée dans un contexte colonial, de même que les Nations Unies. Donc les approches étaient plus des approches verticales, où des interventions étaient donc décidées et imposées par la population. Et ça a beaucoup changé depuis lors, parce que aujourd'hui, toutes nos approches d'intervention sont basées sur l'appropriation par les pays et par les communautés. Et aujourd'hui, les meilleurs experts, les meilleurs épidémiologues sont aujourd'hui en Afrique. Et parmi ces meilleurs experts, j'en ai beaucoup formé. Revenons sur la médecine traditionnelle. Donc, c'est une priorité extrêmement importante pour l'OMS. En Inde, le directeur général de l'OMS a lancé un centre collaborateur de l'OMS pour la médecine traditionnelle. Et en Afrique, nous avons beaucoup de pays qui investissent dans la médecine traditionnelle, dans la recherche. J'en ai vu au Mali, où j'étais représentant de l'OMS, au Sénégal, en Tanzanie, au Nigeria, à Madagascar. Et c'est aujourd'hui l'occasion, donc, de renforcer la recherche, y compris pour la médecine traditionnelle.
Docteur Ibrahima Sossé Fall, directeur du programme mondial de l'OMS sur les maladies tropicales négligées, et les candidats au poste de directeur régional de l'OMS pour l'Afrique. Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde de Georges-Léonard Sagnon. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.